RMN, RMN. Sur le 96.
Place aux associations.
Et à 1901 sur Radio Mono 90.6 aujourd'hui, Rucher École de Moiremont avec ses représentants, présenté par Chantal.
Oui, bonjour à tout le monde. Donc aujourd'hui effectivement l'association Rucher École de Moiremont avec Monsieur Thierry Bertin qui est vice-président de l'association et Monsieur Étienne Touvenin qui est secrétaire de l'association. Donc juste pour situer Moiremont, c'est près de Sainte-Ménéhould, si je ne m'abuse.
Il doit faire bon là-bas, à l'ombre des bois.
Je ne sais pas. Donc, en fait, votre association, elle a fêté ses 40 ans l'an passé. Hein, elle a été créée en 1985. Alors, votre association, elle a été créée comment, par qui? Vous n'y étiez pas, j'imagine, il y a 40 ans.
Alors, il y a une étude qui a été faite dans les années 80 pour pouvoir aider les agriculteurs de l'Argonne. Qui n'avaient pas beaucoup de revenus, en devenant plus réactifs et en les formant à l'apiculture. Donc comme il y a une étude qui a été faite, c'était intéressant, avec les fleurs, la forêt, du miel diversifié. Donc, et après l'étude, la Chambre d'agriculture a donné des subsides pour pouvoir créer une association. Quoi.
Voilà. Alors votre association, apparemment, d'après ce que vous m'avez dit en antenne, il n'y a pas de salariés, ce ne sont que des bénévoles. Vous êtes nombreux en tant qu'adhérents ?
En tant qu'adhérents, inclus les élèves, on doit être à peu près 35, mais des adhérents permanents, en fait, c'est le conseil d'administration, on est une douzaine à donner des cours,
à participer activement aux
formations. Oui.
Alors, justement, vous avez formé, je regardais, plus de 250 élèves depuis la création de l'association. Alors, c'est quel profil, en fait, vos élèves jeunes, vieux, hommes, femmes
Non, mais c'est tout horizon. Hein. On a des personnes d'un certain âge qui ont pris la retraite et qui souhaitent avoir une ruche dans leur jardin pour la biodiversité. Et puis d'autres qui veulent plus jeunes, beaucoup plus jeunes, qui veulent faire une double activité. Et puis des passionnés.
Oui, pour eux.
Oui, pour eux, personnellement. Oui, voilà. Donc, on a des professionnels aussi qui viennent en formation chez nous. Mais on a aussi des jeunes. On a cette année un ado qui a une quinzaine d'années. Quoi.
D'accord. Donc là, c'est le plaisir ou sa passion.
Oui, voilà. Ouais. C'est des passionnés. Passionnés d'apiculture. Qu'on leur explique les dynamiques des colonies et ce qu'il faut faire chaque semaine, chaque mois, chaque période de l'année qui est importante pour la dynamique de la colonie, pour la récolte du miel. Voilà.
Oui, ça demande beaucoup d'investissement, parce que vous dites tous les mois, toutes les semaines, donc il y a beaucoup de choses à faire quand on est apiculteur pour les ruches. Moi, je pensais que ça se mettait, puis qu'on attendait qu'ils fassent le miel.
Non, pas du tout, non.
C'est-à-dire que, bon, si on fait le tour de l'année en hiver, il faut les surveiller une fois par mois, voir si ils ont assez de nourriture pour passer l'hiver. Parce que si vous tirez tout le miel en automne et vous leur laissez rien pour l'hiver,
elles meurent.
Voilà. Et puis à partir du printemps, c'est une surveillance tous les 10 jours. Et en pleine miellée, c'est une surveillance toutes les semaines parce qu'elles arrivent à remplir jusqu'à 10 à 15 kilos de miel par semaine.
Wow.
Et donc il faut rajouter des hausses, sinon... Elles vont s'arrêter de travailler, elles vont se bloquer devant la ruche, elles vont s'arrêter de travailler, ça peut initier un blocage de ponte de la reine
et donc
la vie de la colonie quoi. Donc il faut vraiment suivre.
La reine, elle mange de la gelée royale, je crois. Elle est quand même favorisée, la reine. Et les petites abeilles, elles mangent quoi
Alors, les abeilles, jusqu'à 3 jours, le premier jour en larve, jusqu'à 3 jours, c'est de la gelée royale. Ils sont toujours baignés dans la gelée royale. Et ensuite, au troisième jour, ils passent au pain d'abeille.
Voilà.
Donc les abeilles font, avec le nectar et le pollen, ils font une subsistance d'alimentation des abeilles.
Ça fait un peu cire, c'est ça qui fait un peu cire.
Non, ça fait pas un peu cire, c'est le pollen, le pollen qu'il y a sur les fleurs, avec le nectar qu'ils vont récupérer, un petit peu d'eau. Ça fait un pain et ils s'est nourri avec... avec cela. Et donc les larves, après, ils deviennent, au bout de 20, 21 jours, elles deviennent une petite abeille. Et après, d'accord, ça rentre dans le cycle des 7 métiers de l'abeille.
Les 7 métiers, c'est-à-dire
ouais. Alors, les 7 métiers.
Comme les 7 nains.
Ouais, voilà, comme les 7 nains. Bah, ils deviennent nourricières, ils deviennent nettoyeuses, protectrices, butineuses. Enfin, c'est pas tout à fait dans l'ordre, mais
d'accord, ils ont plusieurs métiers. Ouais, d'accord,
cirières.
Oui, la cire, c'est à ça que je pensais. Voilà. Là, oui.
Parce qu'il faut qu'elles ingurgitent à peu près 10 kilos de miel pour faire un kilo de cire. Enfin, c'est pas une seule abeille qui fait ça. Mais,
d'accord, oui, je me doute.
En gros. Donc la cire, c'est quand même un travail spécial. Et puis, elles sont aussi nourricières, donc elles font de la gerbe royale pendant une petite période de leur vie. Donc elles ont, ça fait partie des 7 métiers.
D'accord, elles ont des cycles, en fait.
Bah, le cycle, il est par rapport au temps passé, à la biodiversité que vous avez à l'intérieur. Voilà, donc une abeille, quand elle est naissante, elle a, par exemple, la glande cirièse pour faire des cires, les cristaux de cire. Donc cette glande-là, quand elle s'appauvrit, elle change de métier. Elle devient nettoyeuse, elle devient nourricière, etc.
C'est bien fait, hein. On dit toujours, mais c'est vrai que c'est...
Elle termine par butineuse, et puis un jour, elle ne revient pas.
Ouais, elle meurt. Ça vit combien de temps, une abeille ?
Il faut compter 500 heures de vol.
Comme un avion,
le printemps étant. Exactement, parce qu'après... Après, le corps se fatigue, les ailes s'abîment et en fait, elle meurt de vieillesse. Hein, donc, voilà. Et par contre, ça fait une trentaine de jours.
Oui, j'allais vous dire, parce que
mais 500, en hiver,
500 heures, je ne voyais pas trop.
Mais en hiver, c'est complètement différent. Les abeilles, ils se nourrissent de corps gras. C'est ce qu'on appelle des abeilles diotinus. C'est des abeilles qui sont fortes en corps gras, en acéminé. Donc, ils vont plus longtemps dans le temps. Et comme ils volent moins, ils volent pas l'hiver, en hiver. Ils restent dans la colonie pour réchauffer le nid de couvain et réchauffer la reine. Hein, puisque dans une ruche, même l'hiver, il y a à peu près 30 degrés. Quoi. Enfin, 30 degrés au centre du couvain, du nid. Mais en extérieur, bien sûr, dans la ruche. Hein, on parle de la ruche. Dans la grappe, à l'extérieur de la grappe, il y a une 20-25 degrés. Donc il faut toujours qu'il y ait une température constante, un taux d'humidité constant pour un bon équilibre de la colonie.
D'accord. Oui, donc tout ça, c'est à surveiller. Mais je ne sais pas comment vous pouvez agir. Imaginons, qu'il fasse froid dans la ruche. Est-ce que l'apiculteur a des choses à faire, peut récupérer des éléments qui fonctionnent mal
Oui, on peut mettre ce qu'on appelle une partition, c'est des cadres qui sont pleins avec une petite isolation puis une réflexion. Donc au lieu d'être sur 10 cadres, en fin de compte, la colonie elle est réduite sur 6 cadres ou 8 cadres. Ce qui fait que la température reste compacte dans le nid, on met les deux partitions, ce qu'on a les deux partitions, c'est deux isolations qu'on met entre le nid du couvain.
D'accord.
Le nid. Donc à l'extérieur, il n'y a que la nourriture. Donc l'abeille, quand il fait un peu plus chaud dans la journée, ils vont chercher la nourriture en dessous et revenir.
Ils reviennent
sur le centre du nid.
D'accord.
Et ça permet de moins consommer en hiver. Si on isole bien la ruche, elles ont besoin de moins chauffer.
D'accord. Donc elles se fatiguent moins déjà.
Et puis nous, on a besoin de moins les nourrir.
Voilà. D'accord.
On a plus de chances qu'elles passent.
Mais vous apportez de la nourriture aux abeilles ? Un apiculteur, il nourrit ses abeilles ou c'est elle qui se débrouille seule ?
Alors, théoriquement, elle a assez pour passer l'hiver. C'est-à-dire qu'au printemps, quand on a les fortes mielées, on ne met les hausses de récupération de miel que quand le corps de ruche est plein.
D'accord.
Donc, quand le corps de ruche il est plein, ils ont de la réserve pour passer l'hiver suivant. Mais comme je vous disais, on les pèse à peu près une fois par mois en hiver. Alors en automne, si elles n'ont pas assez de miel pour passer l'hiver, là on leur met du sirop à 70% de sucre pour les renforcer, pour qu'elles mettent du stock. Si au mois de janvier on voit qu'elles sont
c'est
trop
légères... C'est des fortifiants pour abeilles. Voilà. C'est du fortifiant, oui.
Ben c'est du sucre, donc c'est l'énergie.
Oui, c'est ça.
Et au mois de janvier, si on voit qu'elle est vraiment légère et qu'elle ne va pas passer jusqu'au mois de mars, à ce moment-là, on lui met un candy. C'est du sucre.
Sucre candy, oui, je vois, c'est comme des cristaux de sucre.
Oui, tout à fait.
Alors, justement, donc. Visiblement, il y a quand même beaucoup de choses à connaître. Donc, vous faites des cours. Alors, j'ai vu différentes sortes de cours. Il y a du soutien, du perfectionnement. Mais c'est combien de temps ça dure, par exemple, pour les jeunes qui veulent se former à l'apiculture, jeunes ou vieux, d'après ce que vous m'avez dit. C'est des cours. C'est combien de temps
Alors, les cours il y a trois cours différents. Donc, les cours d'initiation, c'est 40 heures dans l'année. qui suit les périodes entre février et septembre. Donc c'est des cours de théorie le matin. Donc le matin, c'est sur 6 samedis, hein, sur 6 ou 7 samedis.
J'avais vu ça, 6 samedis. Oui.
Donc le matin, on fait de la théorie, c'est-à-dire la biologie de l'abeille, combien elle a de pattes, combien elle a d'ailes, blablabla, enfin tout.
Ah oui, mais oui.
On fait toute la biologie, on fait les maladies, enfin, on fait tout le panel de ce qui va encadrer la vie de l'abeille. Et les après-midi, on fait de la pratique. Donc là, on descend en rucher, on a une vingtaine de ruches dans un rucher à 300 mètres de la salle de cours. Et là, on ouvre les ruches, on regarde, on marque les rennes, on voit s'il y a du couvain, s'il y a de la réserve, voilà.
D'accord. Et donc ça, c'est l'initiation.
Ça, c'est l'initiation. Le soutien, c'est la deuxième année, les gens qui ont besoin de pratique. Donc là, c'est sur 5 samedis, c'est que les après-midi. Et donc, on fait que de la pratique. Donc, on suit aussi les périodes de l'année. Donc, au printemps, visite de printemps, récolte de miel, mise en hibernation, ainsi de suite. Et puis, la troisième formation, c'est le perfectionnement. C'est le petit bébé de Thierry. Je vais te laisser en parler.
C'est l'élevage de rennes.
Oh là, ça s'élève, les rennes?
Ah oui, ça s'élève. Étant donné qu'on a beaucoup de difficultés à garder nos rennes, au début du siècle, on pouvait garder les rennes jusqu'à 5, 6 ans, voire plus. Et puis, malheureusement, avec le réchauffement climatique, avec la situation des monocultures et la biodiversité, donc il y a un changement à apporter pour l'apiculture. C'est-à-dire que les rennes, malheureusement, au bout de 2 ans, il faut les changer. Donc on va aller chercher une colonie dynamique qui soit pas trop essaimeuse, alors on pourra en parler après des essaims, qui soit aussi sanitairement puissante pour pas avoir de maladies dans la colonie. Il y a plusieurs facteurs qui soient aussi dans la génétique de la colonie qu'on veut aller chercher nos larves. Une colonie qui soit douce, qui soit pas agressive, qu'on n'ouvre pas la ruche et qu'on ça se passe
piqué de
pas
partout.
Trop piqué, voilà. Bon, généralement, une colonie qui est calme, si on intervient tout doucement, c'est jamais piqué. Mmh. Donc, on va aller chercher un œuf, comme je disais tout à l'heure, de 2 à 3 jours, qui a été. On va le chercher avec ce qu'on appelle un picking. Donc, on va aller récupérer l'œuf et on le met dans ce qu'on appelle un appareil qui s'appelle le cupule. Donc, ça représente un peu le début de la larve, enfin d'une cellule royale. Et ensuite, on va mettre ce cadre-là avec plusieurs larves, ça peut être 60, voire
pour
plus,
créer une ruche.
Pour créer une cellule royale.
Une
Donc,
cellule.
On orpheline une colonie, on enlève la reine et on met ce cadre-là avec des larves. Comment dirais-je, qui sont prédestinés à être des cellules royales.
Donc ça vous fait plusieurs
Alors, ça
reines.
Nous fait beaucoup de reines au bout d'une quinzaine de jours. Je vais pas rentrer dans le détail du cycle des jours.
Mais non, on n'aura peut-être pas le temps.
Donc ces reines, soit on les met dans des petites colonies, ce qu'on appelle soit des killers ou des mini-plus, pour changer nos reines dans les colonies qui sont défectueuses.
Voilà.
Ou alors, ce qu'on peut... On peut parler aussi de créer des essaims d'hivernage, c'est-à-dire qu'on prend on va aller chercher du couvain dans une autre colonie, on va aller chercher du pollen, on va aller chercher du miel, on prend un paquet d'abeilles, on l'isole pendant 48 heures, on lui met une cellule royale qu'on a créée, et puis ça fait une nouvelle colonie, ça passe sur 6 cales l'hiver, et au printemps on a une très belle colonie qui redémarre.
Voilà. D'accord. Parce que en fait, je ne suis pas une spécialiste des abeilles, ça se saurait. Mmh. Mais je pensais que d'une ruche, souvent, il y a un essaim qui va partir quand il y a une nouvelle reine, non? C'est pas ça?
Alors ça, c'est dans la nature, si vous voulez, les reines qui sont vieillissantes, les abeilles le sentent. Parce que la reine, elle a une transmission. Nous, on a la voix, on dialogue, on a notre voix. Mais la reine, c'est la phéromone. Quand la phéromone, c'est
diminue.
La phéromone qui donne. Si vous voulez, le message à la colonie. Quand cette phéromone diminue, ben, eux, dans leur esprit, ils savent que la reine est vieillissante. Donc, ils commencent à préparer ce qu'on appelle une cellule de remérage. Voilà. Donc, il existe, parce qu'il y a plusieurs sortes de remérage. Vous avez le remérage parce que l'apiculteur a mal géré la situation de la colonie. Donc, dans la dynamique, il n'a pas mis les hausses à temps. On est en pleine floraison de colza. si vous voulez, la colonie, elle a plus de place. Donc, automatiquement, ils font des cellules royales pour diviser la colonie. Ça, c'est la nature.
C'est quand on voit des essaims,
voilà,
c'est ça.
Tout à fait. Ouais. Donc, ça, c'est plutôt printemps jusqu'à fin mai. Quoi. Voilà. Donc, vous avez,
ça, c'est la nature.
Vous avez cette dynamique-là. Mm. Voilà. Donc, nous, l'apiculteur, on a des méthodes, c'est ce qu'on voit aussi en formation, pour éviter l'essaimage, parce que ça fait une perte de rendement de miel pour les apiculteurs. Voilà.
D'accord,
donc il y a plusieurs méthodes de travail. Soit vous laissez faire, vous récupérez les seins.
Mais ce que j'allais vous dire, dans ce cas-là, vous récupérez les seins.
Vous récupérez les seins si c'est possible, parce que des fois, il est à des hauteurs terribles, mais ou mal placé.
Il faut être sportif, quoi.
Ouais,
c'est
voilà,
ça, quand on est apiculteur, il faut savoir grimper aux arbres.
Soit on laisse faire, soit on intervient. Et si on intervient, il ne faut pas être trop intrusif, quoi. Il faut intervenir juste à temps. Il faut bien avoir une lecture du couvain, de la colonie, pour intervenir sur pour prévoir l'essaimage.
C'est très précis. Et en fait, on se dit que la formation, c'est vraiment utile. Hein.
Oui. Tout ça, c'est mathématique. Hein. Une reine, normalement, elle pond au mois d'avril-mai, 2 000 œufs par jour. Et vous avez à peu près 500 abeilles qui meurent par jour.
D'accord. Donc c'est bien, ça fait un bon renouvellement.
Voilà, vous avez 1 500 abeilles de plus par jour pendant un certain temps.
Ouais.
Et donc, de 30 000 abeilles, la ruche, elle va passer à 80 000 abeilles.
Vous êtes un peu serré.
Et à ce moment-là, voilà, ils ont un peu serré. Et la vieille reine part avec une moitié de la colonie.
D'accord.
Donc elle se gorge de miel et puis elle part. Ouais. Et c'est le fameux essaim qu'on retrouve.
Oui, qu'on voit de temps en temps, oui.
Donc en théorie, les essaims qu'on voit, c'est la reine de l'année d'avant ou de l'année d'avant encore. C'est une reine d'un an ou deux ans.
Une reine vieillissante.
Et dans la colonie va rester une jeune reine qui va venir au monde.
D'accord. Voilà. Ouais, c'est bien fait quand même. Ouais. Et donc tout ça, bon. Et vos cours, je vous ai posé la question en antenne, mais évidemment les auditeurs n'ont pas pu entendre. En fait, vous ne donnez pas de diplôme. C'est une formation très bien faite, mais qui n'est pas certifiante en fait.
On leur donne un document comme quoi ils ont suivi l'initiation.
Voilà. Une attestation. Mais est-ce que quelqu'un qui veut s'installer à apiculteur, ça peut suffire ou il faut faire autre chose ou pour une certification pour pouvoir s'installer apiculteur, vendre son miel, enfin.
S'il vient les 3 ans avec nous, il est capable de gérer une dynamique d'une colonie puis de progresser. Après, il y a l'ADA, hein, l'association
des apiculteurs.
Des apiculteurs, voilà, il y a des groupements au syndicat qui peuvent orienter. La Chambre de l'agriculture a aussi quelques formations.
C'est une question parce que pour certains métiers, il faut avoir une certification pour s'installer. Donc je me posais la question. Ouais.
Il faut quand même passer par un rucher école ou alors aller dans une formation du Grand Est pour. Pour progresser, parce qu'on voit la catastrophe, on peut pas gérer une dynamique de colonie pour la production de miel sans être formé, c'est pas possible.
Bah, d'après ce que vous venez de dire, oui, effectivement, c'est quand même très précis, il faut bien connaître les abeilles, etc. etc. Alain, tu nous mets.
Une petite pause musicale.
Une petite pause musicale,
on y va, c'est parti.
On enchaîne juste après.
D'air en air, l'apiculteur se meurt. Il a eu son heure, il a fait son beurre. Happy, l'apiculteur. D'air en air, l'apiculteur effleure. La fin du labeur. Happy, happy culteur. Dans une autre vie, les marguerites s'effeuillent de ralenti. Personne n'est vainqueur. Les proies, les prédateurs savoure le nectar d'une pomme d'api. Happy, happy culteur. L'heure c'est l'heure, on n'est pas d'humeur. À verser des pleurs, fiers sont les ouvrières. Le jour en tailleur, le soir qui tient, quand la mort vous susurre des serments veloutés, que rien n'est moins sûr, n'aura plus d'importance ni la chaleur ni les piqûres. Apiculteur, apiculteur. D'air en air, l'apiculteur se meurt. Trouve l'interrupteur, une oasis, vous allez border des panniers, que la splendeur n'effraie plus. Apiculteur, apiculteur. Happy, happy culteur.
L'apiculteur par Abachoum, grand spécialiste, et on reprend avec Chantal devant deux apiculteurs en chair et en os.
De l'association Rucher École de Moirmont. Donc on a parlé un petit peu de votre activité en termes de cours et autres, mais il y a aussi une question qui me paraît importante, c'est quels sont les défis de l'apiculture ? Parce qu'on a quand même entendu parler du frelon asiatique, il y a la pollution, il y a aussi le varroa, c'est ça ?
Oui.
Que je ne connaissais pas, donc je vous laisse détailler.
Le varroa est arrivé dans les années 80, hein. Il vient de l'Inde, hein. C'est un parasite, un acarien, qui vient se fixer sur l'abeille et, comment dirais-je, vient sucer un peu ce qu'on appelle les molinfes, mais c'est un peu leur sang, quoi. Donc c'est assez terrible. Et ensuite, ça colonise au printemps, ça colonise jusqu'en juillet, août, toute la colonie. Hein,
c'est la mort de la ruche.
C'est la mort de la ruche. Si on ne traite pas, si on a des différents traitements qu'on peut avoir, les traitements flash ou des traitements au mois de juillet, août, pour passer l'hiver. Mais si on ne traite pas, la colonie est perdue. Quoi.
Et comment vous voyez qu'il y a le varroa dans votre ruche ?
On a une méthodologie, hein, ce qu'on appelle le check-up. Hein, on peut déjà un aspect visuel. On va aller voir sur les petites abeilles s'il y a notre varroa qui vient se coller au-dessus. Hein. Donc ça, c'est comme un tic, hein, ça se voit assez rapidement.
D'accord.
Quand on s'aperçoit qu'on a déjà un varroa sur une ou deux abeilles, quand on soulève nos cadres au printemps, on peut déjà s'inquiéter.
Oui, ça y est, c'est qu'il est là.
Ouais,
oui.
C'est que de toute façon, il est toujours dans les colonies. Hein. Quoi qu'il en soit, il sera dans nos colonies jusqu'à la fin de nos jours.
D'accord.
Enfin bref, donc c'est un traitement qu'il faut adapter par rapport à la mielée, par rapport à beaucoup de choses, quoi, à l'hiver, etc.
Il faut être vigilant.
Ouais, faut être assez vigilant. Alors, ce qu'on appelle le check-up au printemps, ce qu'on peut faire, on a comme un check-up, hein, avec du sucre. C'est ce qu'on a fait dernièrement avec l'ADA. On a fait une petite formation samedi dernier. On vient mettre le check-up et on met du sucre dans le check-up. On secoue un paquet d'abeilles à l'intérieur. Et puis, bien sûr, sans prendre la reine, parce que là, si on abîme la reine, c'est la perte de la colonie.
Oui, aussi, oui.
Et ensuite, le sucre, on le fait fondre avec de l'eau. Et puis, c'est une des méthodes. Il y en a d'autres, hein, bien sûr. On fait fondre le sucre et on voit les varroa dans le fond. Et rapport au nombre de varroa et à la colonie que vous avez, bah, vous pouvez déterminer si elle est infestée ou pas. Quoi.
D'accord. Oui, bah, ça c'est un des défis. Il y a d'autres, bah, il y a le frelon asiatique dont on entend beaucoup parler.
Pour le varroa, il y a encore une autre méthode. On a des planchers de ruche qui sont grillagés. Ouais. Donc on met un lange, ce qu'on appelle un lange, c'est-à-dire une feuille de plastique. Mmh. Et comme les varroa, il y en a qui tombent toujours, c'est comme les abeilles, hein, il y en a qui meurent tous les jours, donc ils tombent sur ce plastique.
Ah oui, là,
et en fonction du nombre qui tombe par jour ou par semaine, on arrive à déterminer l'infestation de...
D'accord. Oui, c'est un peu le même principe, mais c'est une autre méthode. Bah, et donc là, je voulais parler aussi du frelon asiatique, parce qu'on sait que pour les abeilles, c'est dangereux, très dangereux.
Bah, oui.
Et voilà, alors comment vous agissez? Je sais qu'il y a des gens spécialisés pour détruire les nids de frelons asiatiques, mais...
Il y a différentes méthodes. Hein. Au printemps, on piège les reines, enfin les fondatrices. Les fondatrices
de frelons
asiatiques, on les piège au printemps. Donc, dans le commerce, il existe différents pièges. Hein. On privilège des pièges qui sont sélectifs, c'est-à-dire qui piègent que le frelon asiatique.
Mais pas vos abeilles.
Pas les abeilles, pas les mouches, pas les papillons, hein, quand même. Oui. Donc, il existe, on ne va pas citer de nom aujourd'hui, mais il existe dans les fournisseurs apicaux, enfin, des pièges sélectifs. On l'a bien pris en compte. Donc, on piège les fondatrices jusqu'au fin mai. Hein, et ensuite, on protège nos ruches avec un système électrique comme des harpes. C'est des harpes électriques. Hein, quand le nid primaire du frelon asiatique a commencé à fonder des fondatrices qui vont, eux, créer un autre nid secondaire, etc., c'est un cycle chez le frelon asiatique. Un nid primaire peut avoir 6 ou 7 nids tout autour, une dizaine de nids à 50 mètres aux alentours. Donc c'est énorme. Quoi. C'est,
oui, ça a l'air impressionnant.
Quand le frelon asiatique a un impact sur une planche d'envol d'une ruche, elle va détruire la moitié de la colonie. Enfin, le frelon asiatique détruit la moitié de la colonie en venant manger les protéines. Alors, c'est pas la fondatrice qui vient, c'est les nourricières. Les nourricières qui viennent nourrir aussi,
c'est le même principe que les abeilles. Mais nous, on n'en veut pas. On veut que les abeilles. Voilà. On ne veut pas les frelons asiatiques.
Voilà. Donc, il existe des tas de méthodes pour essayer de se débarrasser de ces prédateurs. Mais en fait, pour l'instant, les pouvoirs publics, ils ont commencé un peu à s'occuper du souci, parce que ça devient, les nids de frelons asiatiques deviennent dangereux à proximité des écoles ou dans le domaine public. Donc c'est détruit, maintenant c'est subventionné, mais l'apiculteur et les privés, ils se débrouillent. Quoi, hein, voilà. Donc soit il fait détruire les nids de frelons asiatiques, soit il se forme lui-même pour détruire les nids qu'il peut éventuellement observer au mois de juin, juillet. Quoi.
Voilà. Oui, c'est une vraie question en fait. Et puis je pense qu'il y a aussi la pollution parce qu'on a longtemps parlé, on avait peur que les abeilles disparaissent en fait, quasiment. Et elles sont nécessaires à la vie de la planète hein, quand même. Donc je ne sais pas où on en est, mais bon, grâce aux apiculteurs, je pense qu'on arrive à avoir encore des abeilles, du miel. Je sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres...
Il y a les traitements agricoles. Il y a eu beaucoup d'efforts de fait quand même de ce côté-là, puisque les agriculteurs, en théorie, ils ne feraient des traitements sur leurs céréales que le soir, à partir de 18h.
Là où les abeilles ne sortent pas.
Les abeilles ne sortent plus. Et une fois que la plante a assimilé le produit...
Ça va, il y a moins de danger.
En général, le produit, il est... il n'est pas mortel pour les abeilles. Si les abeilles ne sont pas aspergées avec, quoi.
D'accord. C'est comme pour les humains, je dirais, parce que c'est pas bon non plus de se prendre des pesticides quand les gens les mettent dans les champs. Il vaut mieux ne pas être là. Hein.
Mais bon, d'un autre côté, il y a certains apiculteurs qui disent oui, mon voisin, il a traité et j'ai des ruches qui sont mortes. Il voit pas de paquet d'abeilles mortes devant la ruche, mais la ruche meurt en hiver. Mais bon, c'est parce que peut-être qu'il a pas traité pour le varroa. Donc, vous voyez, il y a des gens qui mélangent un peu,
Puis de toute façon, à l'heure actuelle, même les pesticides, enfin, on sait que tout n'est pas calé, mais il y a eu quand même des efforts pour éviter de polluer tout, et même les aliments, en fait. Hein,
ils ont quand même beaucoup de normes, et puis
ils
ont des surveillances par drone, ils mettent des pesticides aux endroits qu'il faut, c'est quand même bien réglementé. Hein,
c'est mieux réglementé qu'il y a certaines années.
On voit beaucoup moins de paquets d'abeilles mortes devant nos abeilles suite à un traitement, maintenant, on fait quand même...
Parce que ça vous voyez, avant, vous pouvez voir...
Oui. Dans les années 90,
avant qu'on réalise le danger de tous ces produits pour l'humain aussi. Hein.
Les agriculteurs, ils traitaient dans la journée, en plein soleil.
Oui, donc les abeilles étaient...
À 3h de l'après-midi, les abeilles étaient là. Donc les abeilles étaient aspergées par le produit. Et les gardiennes les empêchaient de rentrer dans la ruche. pour ne pas polluer la ruche.
Et donc, qu'est-ce qu'elles faisaient ?
Elles mouraient devant la ruche. Donc, on avait des paquets d'abeilles mortes devant la ruche. Quoi.
Ah ouais, d'accord. Donc là, on arrive au terme de l'émission. Je ne sais pas si on a tout dit. Vous reviendrez à l'occasion si vous voulez parler de, je sais pas, d'événements. Ce qu'on peut dire aux auditeurs, c'est que quand le podcast sera sur le site de la radio, on aura votre adresse et aussi le mail. Et vous êtes très présent sur Facebook.
Oui.
Voilà,
tout à fait.
Ça j'ai vu. Donc, si des gens. Et puis, est-ce que vous organisez des journées portes ouvertes, par exemple ?
Alors, il y avait les 40 ans. On avait organisé les 40 ans. Ouais. Et puis là, on est en pour parler avec le syndicat de l'abeille marnaise pour éventuellement faire une journée de l'abeille.
Ah, c'est bien
qui
ça.
Qui était faite avant, je crois que c'était à Cortisol.
Cortisol, hein. Ouais.
Donc là, on va voir pour essayer d'organiser une journée. Alors, ça ne sera pas tous les ans, je ne sais pas. Ça reste encore à déterminer. Hein.
Bon, enfin.
Mais enfin, si quelqu'un est intéressé par le rucher école, il peut toujours nous contacter.
Vous
contacter, on fait une visite.
Voilà.
Hein. Ouais, tout à fait. Ouais.
Pas de problème. Mais là, bon, peut-être une journée de l'abeille cette année. En prévision.
Enfin, l'année
en
prochaine. Bon,
l'année prochaine.
L'année prochaine.
En 2027.
Mm.
D'accord.
Puis s'il y a des groupes qui sont intéressés pour visiter des ruches, oui. Bon, on peut être disponible. Quoi.
J'imagine que dans le coin, les écoles, non, on n'a pas les petits.
Ah ben, on a fait un centre aéré à Sainte-Méloule il y a peu de temps. Hein,
d'accord.
Avec les enfants.
Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup, messieurs.
Merci à vous.
J'espère que votre émission intéressera nos auditeurs, auditrices. Et puis, bonne continuation à vos abeilles.
Merci.
Merci.
Au revoir.